Matière à penser, Dominique Rousset.
Et la suite de notre série face à la catastrophe, le pire n'est jamais sûr. Rappel notre point de départ, la série s'achèvera ce soir, le constat d'une dégradation accélérée de l'environnement, climat et biodiversité. Un modèle économique dominant qui génère de fortes inégalités, qui apporte des réponses jugées inadaptées par un nombre croissant de nos citoyens, et pas seulement ceux des pays développés comme on va le voir. En face d'autres approches qui entendent faire plus de place à la dimension sociale, à l'autonomie, au collectif, et qui entendent aussi respecter la nature. Au lieu de s'opposer à elles, elles ne sont pas majoritaires, du moins pas pour l'instant, mais elles font leur chemin, et elles obtiennent des résultats significatifs, c'est ce que nous voulons. Et surtout pointer, faire consommer, s'organiser collectivement, et ce soir, pour conserver l'espoir et porter un regard plus optimiste vers le monde qui vient innover et partager. Bonsoir Bénédicte Magnier et Anne-Sophie Novel.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bénédicte Magnier, Anne-Sophie Novel, toutes deux journalistes, toutes deux auteurs, observatrices très attentives de nouveaux comportements sociaux, des initiatives citoyennes, proches ou lointaines. Bénédicte Magnier avec 1 million de révolutions tranquilles, 2 éditions successives en poche aujourd'hui. Je le précise pour montrer quand même l'intérêt dans notre société de ce type d'ouvrage, un tour du monde de ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, hein, comment les femmes, les hommes reprennent en main leur histoire et leur avenir dans toutes les régions du monde, notamment en Inde, pays dont vous êtes spécialiste. Et Anne-Sophie Novel avec un blog très efficace, le blog Le Monde, et un livre documenté sur l'économie du partage, sur toutes les formes d'économie collaborative. Vous êtes également l'auteur d'un film, Les médias, Le Monde et moi. Ce sera l'occasion. Il est assez rare que je reçoive des journalistes, donc ce sera l'occasion d'une réflexion que nous proposerons à l'une et à l'autre sur la manière dont justement toutes ces informations venues de partout sont relayées, commentées, et sur également peut-être la responsabilité de l'informateur. Mais tenez d'ailleurs, Anne-Sophie Novel, pourquoi avez-vous eu envie de faire ce film ?
J'ai eu envie parce que, étant spécialisée sur les questions d'environnement et d'écologie, j'ai pu constater, mais comme de nombreux consoeurs et nombreux confrères, qu'il était parfois compliqué d'en parler. Ça devient de moins en moins le cas, mais ça reste quand même un sujet qui n'était pas prioritaire dans la hiérarchie de l'information. Et forcément, quand on travaille sur ces sujets, on sait quelle est l'interdépendance et la complexité du monde dans lequel on vit. Et je ne comprenais pas. Donc j'ai voulu enquêter sur cette façon dont fonctionnait l'information. Et l'enquête où je m'interrogeais justement sur le rôle du traitement médiatique de l'écologie, de la place de l'écologie dans les médias, j'en suis arrivée à m'intéresser à l'écologie des médias. Et donc c'est un cheminement de 5 ans, j'ai mis 5 ans à mener cette enquête, à faire le film et maintenant le livre, et à me rendre compte que le système qui est en train de détruire notre environnement est le même qui est en train de détruire notre rapport à l'information. Et qu'il faut absolument qu'on reprenne le dessus sur notre façon de nous informer, parce que sinon on n'arrivera pas à traiter ce qui est le plus important autour de nous aujourd'hui.
Ça veut dire qu'on n'arrivera pas à convaincre de ce dont vous êtes persuadé,
à comprendre d'abord, à faire société et à partager en fait des projets communs sur le long terme. Et aujourd'hui, on a une grande diversité de supports d'information, qu'ils soient médiatiques, journalistiques ou autres. Tout le monde peut devenir son propre média, mais ça crée un foisonnement qui est riche par certains aspects, mais aussi destructeur par d'autres aspects. Ce qu'on explique dans l'enquête, c'est que il y a 30 ans, on a réalisé qu'il fallait mieux s'alimenter, que le système alimentaire était arrivé à bout de souffle. On ne savait plus d'où venait la nourriture qui arrivait dans notre assiette. C'est encore un peu le cas, mais il y a des initiatives, des alternatives qui se sont développées. Sur l'information, c'est pareil. Le lien de confiance est cassé. Aujourd'hui, on se méfie de tout le monde. On déteste les journalistes. On ne sait plus quoi penser. Mais on a une fabrique médiatique qui est à bout de souffle. Mais ce n'est pas seulement les médias et les journalistes. C'est aussi tout ce qui est réseaux sociaux qui nous empêche de penser le monde tel qu'il est.
Bénédicte Magnier, vous êtes également journaliste, je l'ai dit. Donc, vous vous retrouvez dans cette envie déjà de faire cette enquête et dans les premiers résultats.
Oui, et en même temps non. Moi, j'ai voulu écrire ce livre sur les multiples initiatives citoyennes partout dans le monde parce que je travaille à l'AFP et j'avais une rubrique il y a longtemps où je couvrais l'économie sociale et solidaire notamment, qui m'a permis de découvrir la multiplicité, le très très grand nombre des initiatives à la fois d'associations, d'un monde organisé et constitué, mais aussi de groupes informels de citoyens qui agissent partout dans le monde. Donc c'est par le journalisme, moi, que je suis arrivée à ce domaine-là.
Mais avec des difficultés à imposer vos sujets ? Non, parler de l'AFP.
Pas vraiment, j'en parlais régulièrement, mais le domaine était tellement important que ça méritait un livre en plus. Et puis je me rends compte que justement, une agence de presse internationale comme l'AFP donne beaucoup de choses importantes. On a passé fin avril une série passionnante sur les Indiens d'Amazonie qui résistent à la déforestation, qui résistent au gouvernement Bolsonaro à l'heure actuelle, qui sont les gardiens de la biodiversité et qui se battent pour ça. Et ces trois reportages multimédia avec des photos magnifiques, je les ai pas vus beaucoup repris, du moins en français. Dans la presse française, mieux à l'étranger. Mais là, il y a une question de choix après, dans ce que fait la presse. Oui.
Comment l'entendez-vous, le pire n'est jamais sûr ?
Le pire est très certainement sûr, parce que je crois qu'on n'arrive même pas à imaginer ce que ce sera de vivre sur une planète qui sera réchauffée de 4 degrés avec des vagues de chaleur meurtrières, même si on a déjà des exemples. L'an dernier, au Pakistan, le pic de chaleur est monté à 50 degrés, donc ça donne quand même une idée de ce qu'on va vivre. Mais cependant, il n'est pas sûr parce que on connaît scientifiquement les moyens de faire autrement. Il faut se mobiliser, mais on voit que les mobilisations ne viennent pas tellement du haut, hein, du monde politique. Par contre, la société civile, elle, se mobilise partout. Alors, c'est pas très connu. C'est un phénomène plutôt silencieux, plutôt discret, plutôt mal couvert, très difficile à mesurer aussi par ailleurs. Parce qu'on sait que c'est partout présent sur la planète, dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine du travail, dans le domaine des écosystèmes, de l'agriculture, des circuits courts, alimentaires, etc. De ce point de vue-là, nous sommes entrés dans l'âge, en quelque sorte, de la société civile agissante. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais eu une société civile aussi qualifiée, aussi éduquée, aussi connectée, aussi informée, aussi consciente des grands enjeux planétaires. Ce qui crée aussi une énorme frustration vis-à-vis de l'inertie, de la lenteur du monde politique. Mais ce qui crée une envie d'agir.
Anne-Sophie Novel, sur ce titre.
J'ai un ami qui a créé l'Institut du futur souhaitable et qui dit toujours « le meilleur est à venir ». Et on a souvent eu ce débat où je disais non, moi je suis pas d'accord. Pour moi, c'est juste le pire n'est pas certain. Cette vision un peu trop positive de ce qui vient me paraît justement un peu trop utopiste. Et moi, je me place dans la ligne de ceux qui disent on est possibiliste. C'est-à-dire il faut se prendre en charge, il faut agir, il faut s'engager, il faut faire tout ce qu'on peut, mais en ayant conscience qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on a foutues en l'air. Donc c'est un devoir de réalisme, mais qui doit pas pousser à l'inaction, qui doit au contraire donner les moyens de réfléchir autrement. Sans tomber non plus dans le prosélytisme systématique, mais juste faire preuve de pédagogie. Justement, avec ce métier de journaliste, moi, c'est pour cette raison-là que je suis une journaliste, c'est pour mieux expliquer ces questions aussi, mais pour montrer aussi la possibilité qu'on a chacun d'agir à notre niveau, et quels que soient nos centres d'intérêt et nos passions.
Il y a un point très intéressant dans ce que vous dites, Bénédicte Magnier, dans votre livre documenté, que vous appelez d'ailleurs « Révolution tranquille ». Vous avez dit « silencieuse », mais pourquoi vous dites « tranquille » ?
D'abord, elles sont éminemment pacifistes, ce qui n'est pas le mot qu'on accole en général au mot « révolution ». Et puis, elles se font dans une espèce d'état d'esprit collaboratif, extrêmement positif, extrêmement constructif. Et en ça, ça donne l'idée d'un avenir meilleur, justement.
Ce que je trouvais intéressant, c'est que toutes ces initiatives dont nous allons parler, que vous développez l'une et l'autre, sont au fond très semblables d'une région du monde à l'autre, avec des moyens évidemment très différents et même des enjeux très différents. Et pourtant, elles se rejoignent, ils ont les mêmes idées, ils font à peu près les mêmes choses. C'est très frappant.
Oui, je crois que c'est Victor Hugo qui dit « Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». C'est-à-dire que la société civile, je pense, a compris qu'il était temps d'agir. Et puis, de toute façon, beaucoup agissent dans l'urgence, c'est-à-dire les mêmes problèmes se présentent sous la même forme sur les différents continents. La désertification, la crise de l'eau, le changement nécessaire d'agriculture. Chacun, en dépit de sa culture, peut se rendre compte que les mêmes problèmes donnent les mêmes effets.
Ce qu'on peut regretter, c'est en revanche, c'est cette dilution, justement. C'est-à-dire que, pour l'instant, ce sont des initiatives que l'on peut comparer, mais qui ne se rejoignent pas. Il n'y a pas une fédération des grandes initiatives citoyennes, vous êtes d'accord ?
Non, évidemment, mais parce que d'abord, elles ont lieu au niveau local, qui est le seul niveau, finalement, où le changement est possible et où il se manifeste de manière concrète et où on peut voir, que ça donne un visage concret et qu'on peut donc changer les choses à son échelle, faute de pouvoir changer un système mondial qu'on n'approuve plus. Mais c'est vrai que l'impact de ces actions, d'une part, reste limité. Ensuite, elles sont dispersées. Moi, je vois sur un même territoire des gens qui agissent chacun dans les énergies renouvelables, les autres dans l'habitat, les autres dans les coopératives, par exemple, les autres dans... je sais pas, dans l'agriculture bio, etc. Alors, évidemment, c'est déjà très chronophage de faire ce qu'on doit faire, mais il manque une synergie d'ensemble qui pourrait permettre à un territoire entier, de basculer petit à petit vers une transition d'ensemble et ensuite, territoire par territoire, de basculer dans des transitions. Ce qui manque, c'est vrai, et c'est la prochaine frontière, je crois, des initiatives citoyennes, c'est d'agir ensemble, de créer, c'est-à-dire de faire système, et ensuite d'amorcer des transitions en atteignant une masse critique suffisante pour influencer les politiques nationales et internationales. Et ça, ça prendra du temps.
Oui. Surprenant quand même, Anne-Sophie Novel ou Bénédicte Magnier, avec toute cette information justement dont nous disposons, des réseaux, et qui, il faut le savoir, enfin, atteignent vraiment tous les points du monde, y compris les villages aujourd'hui les plus reculés, sont équipés. C'est assez surprenant qu'on n'y parvienne pas, à cette synergie, à cette masse critique.
Moi, je trouve quand même qu'il y a des initiatives qui se sont dupliquées. C'est ça que je trouve intéressant aujourd'hui avec la force des réseaux, c'est que le mouvement des incroyables comestibles, par exemple, nous est venu d'Angleterre, surtout
ce qui est... Qu'est-ce que c'est, les incroyables comestibles ?
Les incroyables comestibles, c'était en Angleterre, cette idée, je crois que c'est à Totnes, où ils ont commencé à planter dans les espaces publics ce qu'ils ont appelé les incroyables comestibles, c'est-à-dire des plantes qu'on pouvait récolter et manger à sa guise, de manière gratuite, et c'était marqué nous à partager. Et ça s'est répandu un peu partout, en tout cas en France, je crois aussi un petit peu en Belgique. On a eu aussi tout ce qui est autour du mouvement locavore, qui était parti du Canada, qui a pris son essor après en Californie, aux États-Unis, qui est arrivé en France il y a à peu près 10 ans. Poussé aussi en Italie par le mouvement Slow Food. Slow Food, c'était avec Carlo Petrini qui, dans les années 80, en opposition au fast-food, notamment de McDonald's, qui a dit, retournons au Slow Food, préservons les variétés anciennes, la biodiversité...
Retrouvons le plaisir de les consommer.
Exactement. Et puis du local, en fait, hein, surtout donc de la réflexion de la fourche à la fourchette, et si on rapprochait les circuits. Je pense que plus récemment, c'est surtout ce qui est zéro déchet, qui a eu aussi un mouvement, alors qui maintenant en plus est poussé par toute une prise de conscience, je crois, sur le plastique. La question du plastique dans les océans et cette pollution-là touche beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui, notamment les jeunes, et ça je l'observe beaucoup. Et donc il y a, via les réseaux sociaux comme Instagram, beaucoup de jeunes qui s'engagent, qui se mettent en avant. En train de faire un jogging, on ramasse les déchets. Il y a beaucoup d'actions comme ça localement qui sont en train de se dupliquer. Et je trouve que là-dessus, les réseaux permettent de donner une ampleur et une caisse de résonance qu'on observait peut-être un peu moins. En tout cas, quand j'ai écrit La vie chère, ça commençait, mais c'était pas aussi important. Et je pense que Bénédicte, voilà, la force de son livre, c'était aussi de montrer ce qui se passait à l'étranger, partout dans le monde. Et c'est là que notre rôle de journaliste est important. C'est-à-dire de montrer ce qui se fait à l'étranger, qui peut être repris, dupliqué, répliqué localement, mais en étant adapté au contexte, bien entendu, dans lequel on le met. Ça, c'est la force.
Vous venez de faire allusion à votre livre, c'est 2013, c'est ça ?
Oui, en fait, il y a eu le grand frère, Vive la co-révolution, c'était sur la révolution du collaboratif, et après, La vie chère, mode d'emploi.
Ouais. Chère, je précise, chère de le jeu de mots sur, évidemment, la cherté des produits, mais chère comme partagée, parce qu'on parle d'économie du partage,
avec toute la réflexion autour de la notion de convivialité, d'économie sociale et solidaire, qui depuis, pour moi, a été un petit peu dévoyée, d'ailleurs, par le capitalisme, qui a su s'infiltrer dans nos vies aussi, dans notre intimité, parce que ces systèmes qui étaient basés au départ sur le partage de pair à pair entre individus a intéressé de plus en plus de monde parce qu'on pouvait se faire un petit peu d'argent. Donc il y a aussi une réflexion derrière à comment est-ce qu'on fait pour préserver la relation quand on partage de cette manière-là. Et il y a des approches qui sont très différentes.
Vous avez mentionné Slow Food dans les années 80, vous dites début des années 80, et ça remonte même encore plus loin, il y a 30 ans au moins qu'on s'intéresse à ces questions depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit. Bénédicte Magnier, vous l'avez observé un peu partout.
Oui, c'était beaucoup plus silencieux il y a 30 ans encore, effectivement, parce que ça naît encore une fois d'initiatives de terrain qui sont dues à la nécessité, parce qu'il faut faire quelque chose. Mais je trouve qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a un réseautage qui se fait, on n'a jamais été aussi connectés. Je trouve aussi que certaines évolutions politiques favorisent la réaction citoyenne. Je suis surprise de voir que depuis quelques années... aux États-Unis, se multiplient, alors d'une part les circuits courts alimentaires, hein, vraiment, mais on le voit au Japon, plusieurs dizaines de millions de consommateurs ont créé leur propre filière agroalimentaire bio, qui sont complètement intégrées. Ça va de la production à la transformation, à la distribution et au recyclage ensuite des produits. Bon, ça, c'est, je veux dire, quelque chose qui a démarré même dans les années 60, mais qui a pris une ampleur aujourd'hui parce que les besoins sont là. Et les évolutions politiques et la mondialisation économique a évidemment beaucoup joué là-dessus. Ce mouvement de relocalisation de l'économie est aussi très très présent aux États-Unis. Comme on voit aussi aux États-Unis, je pense en réaction à l'hypercapitalisme qui n'est plus tellement accepté maintenant. Il y a eu le mouvement Occupy Wall Street, etc. On voit aujourd'hui un développement énorme, inattendu et inédit des coopératives. On trouve des coopératives de production dans tous les domaines, dans les hôpitaux, dans la distribution alimentaire, dans des quantités de choses, dans les énergies renouvelables, dans l'éducation. Il y a des lycées coopératifs. Bon, c'est une évolution qui est en train de faire boule de neige parce que les gens trouvent que le modèle est tellement formidable que maintenant, quand on ouvre une supérette bio, on ouvre une supérette bio coopérative dans laquelle les habitants ont des parts et participent.
Voici vraiment, on est au cœur de l'idée du partage, Anne-Sophie Nouvelle, que vous avez pointée. Qu'est-ce qui est le plus fort dans cette notion de partage? Parce que ça passe par des valeurs, bien sûr, la confiance, l'esprit d'initiative, on souhaite toucher des entreprises. Qu'est-ce que vous pointez en premier dans les...
Comme
dans les critères indispensables.
Il y a rien de nouveau en fait. Cette solidarité existe depuis toujours et les coopératives, les premières, mettaient l'homme au cœur du système. C'était un homme, une voix plutôt que et ça c'était fondamental. Après aujourd'hui, il y a cette multitude d'initiatives qui se sont développées avec des logiques coopératives, collaboratives, avec des fois des applications derrière qui aident à mettre tout ce petit monde en mouvement et à se mettre en relation. D'autres qui restent beaucoup plus artisanales. Donc c'est très varié aujourd'hui ce mouvement-là. Ça a dérivé sur ce qu'on a appelé la plateformisation de l'économie, l'ubérisation, qui a eu ses dérives et qu'on peut critiquer à
certains
égards.
Oui, parce qu'à l'époque où vous en parlez, donc on disait quoi, le livre 2013, vous êtes assez enthousiaste sur le principe de la plateforme.
Très enthousiaste, ouais.
Vous l'êtes moins aujourd'hui?
Je le suis moins aujourd'hui, je le reconnais, j'ai pas écrit le troisième livre que j'aurais pu écrire sur le sujet pour justement apporter un regard, je dirais pas moins enthousiaste, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qu'il faut pas casser les forces agissantes, mais c'était pour émettre des réserves, en disant attention, ne soyons pas non plus à nous ériger dans des tours Airbnb, à oublier qu'en fait il y avait de la relation humaine derrière. Gardons mesure sur ces dérives-là et l'hospitalité, la part du pauvre, le covoiturage, ne doit pas oublier qu'on peut prendre des gens en stop sans être intéressé par une forme d'argent ou autre. Et donc ça a des aspects très positifs, mais après il y a un effet de seuil où parfois on tombe dans quelque chose qui va être trop intéressé et où la relation humaine va se disperser.
Donc voilà. Sans parler des conditions de travail des salariés, enfin des gens qui sont
bien
amenés
sûr
à travailler pour ces plateformes.
Bien sûr, avant, quand le livre est sorti, il n'existait pas ces systèmes de Deliveroo ou autres qui permettent d'avoir des plats à domicile très rapides. Je ne veux pas citer une marque plus qu'une autre, mais ça n'existait pas. Aujourd'hui, voilà, ça offre pour certains, et notamment des jeunes, de quoi avoir un petit peu d'argent, mais ce n'est pas non plus des conditions de travail idéales. Il y a une vraie réflexion à avoir sur jusqu'où va-t-on dans ce respect de la personne. Mais c'est pas une...
Jusqu'où on peut encore parler de partage, sans dévoyer le terme, quoi,
sans
faire des glissades un peu dangereuses.
Voilà, donc c'est, je pense que c'est l'humain et le vivant qu'il faut garder au centre de nos réflexions. Quand on parle climat, écologie, on a beaucoup parlé du CO2 pendant des années. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'érosion de la biodiversité, le dernier rapport de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité a publié son dernier rapport il y a 15 jours maintenant.
C'est le groupement interdisciplinaire de tous les spécialistes
c'est
scientifiques
ça
sur le climat.
Oui, et ça, c'est des prises de conscience qu'on est en train d'avoir. Et notre économie va devoir s'adapter, prendre en compte cette interdépendance, cette complexité, ce besoin de symbiose, en fait, tout simplement. Et ça, c'est crucial. Et je pense qu'on est en train de le comprendre, mais fondamentalement.
Alors, les grands thèmes dont on peut parler, il y a des quantités d'exemples. Là, vous avez énuméré tout ce qui était possible dans ces domaines de partage et puis même d'initiative. Bénédicte Magnier, si on revient sur l'Inde, pays que vous connaissez bien, est-ce qu'on peut prendre l'exemple de l'eau?
Oui, l'Inde est un pays qui est en proie à une crise de l'eau, qui est une crise nationale maintenant, qui est extrêmement grave. Donc dans certaines zones, les habitants ont réagi en inversant complètement cette crise. L'endroit le plus spectaculaire, qui a été un des premiers d'ailleurs à agir, mais ça a été dupliqué ensuite ailleurs, un des premiers endroits à réagir, ça a été un petit district dans le nord du Rajasthan. Rajasthan, climat aride, état en voie de désertification, qui est l'épicentre de cette crise de l'eau. Dans ce petit district, dans les années 80, la terre était tellement sèche, il n'y avait plus d'eau, que les femmes marchaient jusqu'à 6 heures par jour pour trouver de l'eau et que les champs ne donnaient plus rien, les familles ne faisaient plus qu'un repas par jour. Les habitants se sont groupés, alors ça a été un énorme chantier avec plusieurs centaines d'habitants, les hommes, les femmes, ils se sont regroupés pour construire ensemble un réseau de 10 000 points de collecte des pluies et de canalisation des pluies jusqu'à des endroits où l'eau s'infiltre bien dans le sol. Ce qui fait que les nappes phréatiques se sont rechargées très vite et qu'aujourd'hui, on a 1 million de personnes dans le district qui ont de l'eau potable à leur porte de manière si abondante d'ailleurs qu'ils ont créé des assemblées citoyennes pour gérer ce bien commun. Et c'est un bel exemple démocratique aussi.
À ce stade, Bénédicte Magnier, aucune intervention du politique.
Aucune intervention.
Du responsable local, gouvernemental.
Au point même que l'homme qui a dirigé ces travaux, lui, a reçu ce qu'on appelle le prix Nobel de l'eau, entre guillemets, c'est le Stockholm Water Prize, mais que les élus locaux qui habitent à 20 km ne se sont pas déplacés, eux, pour voir ce qu'il avait fait, alors qu'il est connu dans le monde entier aujourd'hui. Et donc, dans cette région, l'eau a complètement restauré les écosystèmes. Et on a eu 5 rivières, par exemple, qui avaient complètement disparu, qui se sont remises à couler. Et l'eau, en revenant, a permis à ce district de redevenir un oasis agricole. Aujourd'hui, les paysans font 3 récoltes par an dans cette région, c'est tout à fait étonnant, en bio, parce que le bio consomme moins d'eau. Et puis, c'est le seul îlot de prospérité agricole dans le Rajasthan et le seul endroit qui a 2 ans d'avance en réserve d'eau. On ne voit ça nulle part.
Mais alors, pardon, expliquez-nous pourquoi ça n'a pas été immédiatement reproduit dans d'autres régions de l'Inde.
Parce qu'il y a une inertie politique. Si, ça a été quand même reproduit dans plusieurs endroits. Ça a été aussi reproduit en Iran, en Thaïlande, dans d'autres pays. Cet endroit a été visité par des quantités de gens et d'ONG notamment qui sont intéressés. Ça a aussi été reproduit à grande échelle, à côté, en Chine, dans la province du Gansu, avec les mêmes résultats en termes d'écosystèmes et de récoltes. Et alors, c'est quand même très intéressant, parce que quand on sait que la crise de l'eau est mondiale, qu'un tiers des grandes réserves souterraines sont aujourd'hui déclarées en détresse, que les 2/3 de l'humanité, dans 10 ans, pourraient manquer d'eau potable, on voit bien que les solutions, c'est justement des solutions décentralisées de ce type, à condition de les multiplier, bien sûr.
Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
Et la suite est la fin de notre série Face à la catastrophe. Le pire n'est jamais sûr, en compagnie de 2 journalistes, Bénédicte Magnier et Anne-Sophie Novel, qui l'une et l'autre ont beaucoup travaillé sur ces questions d'initiatives citoyennes et de rapport aussi aux politiques, qui finalement semblent un petit peu à la remorque de ces initiatives.
Bénédicte vient juste de parler de la façon dont démocratiquement ça a ouvert les choses d'une manière un peu différente. Et donc, je trouve qu'avec l'économie du partage, l'économie sociale et solidaire, il y a des initiatives aussi comme démocratie ouverte ou comme des plateformes qui permettent de participer à la vie publique, à la vie politique. Il y a des applications qui se sont développées où on peut signifier des problèmes dans sa rue et faire remonter l'information à sa commune. Et ça, il y a eu tout un mouvement d'applications qui ont permis de avec le numérique, de faire remonter et de nouer un autre lien avec son représentant ou son élu. Ça, pour moi, c'est un premier stade. Après, j'aime pas mettre tous les politiques dans le même sac. Je pense qu'il y en a qui agissent, quel que soit leur bord, que c'est très mauvais pour la démocratie que de les stigmatiser de manière systématique. Et je pense qu'il y en a qui travaillent très bien leur dossier et que c'est quand on aura du débat qualifié de qualité qu'on arrivera à faire avancer ces sujets. Sauf qu'aujourd'hui,
Rejoint votre critique sur les médias aussi.
Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, les médias sont dans un théâtre médiatico-politique où systématiquement ils se regardent et les gens du coup ne regardent ni la politique ni les médias. Mais je pense qu'il y a un impensé aujourd'hui. Et en fait, l'écologie politique, pour moi, c'est une matière qui est passionnante. C'est un projet de société à part entière, mais ça a été stigmatisé par certains de nos médias historiquement depuis 50 ans. Et il faudrait justement revenir à cette pensée-là, mais l'expliquer et montrer en quoi ces idées peuvent être douces, mais aussi puissantes que d'autres. Montrer à quel point cette interdépendance doit être au cœur de toutes les décisions. Même Nicolas Hulot, qui est passé au gouvernement, qui avait ces idées et qu'il a défendues de manière forte, disait pendant un moment il faut un Premier ministre de l'écologie. Et ce genre de choses devrait être plus marqué aujourd'hui. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, je ne sais pas, je n'ai pas la solution, mais c'est un vrai sujet de réflexion et je pense qu'on doit y venir de manière beaucoup plus forte maintenant. Aujourd'hui, il y a toute une jeunesse qui est en train de se mobiliser, qui fait des marches. Je ne sais pas si les marches sont une bonne chose. Sans doute, oui, pour entretenir une dynamique. Il y a un nombre de contentieux aussi qu'on va porter devant les tribunaux aujourd'hui. Donc, le droit est en train d'évoluer et on peut porter plainte et ça va faire bouger les lignes de l'action juridique. Mais je pense qu'au niveau de l'action politique aussi, il faut mener quelque chose. Je ne sais pas si c'est dans des mouvements dits citoyens, je ne sais pas si tout ce qui est citoyen est bon, mais il y a en tout cas une forme d'engagement à avoir, et je pense surtout en local. Parce que quand on stigmatise le politique, on parle souvent des politiques qui nous représentent au niveau national, mais localement, il y a plein de choses à faire. Et si chacun aujourd'hui prenait sa mesure dans son village, dans sa ville, à son échelle, pour essayer de faire bouger les choses, ça serait une façon d'arrêter d'être dans une critique permanente, mais ouais, d'essayer de faire les choses par soi-même. Et ça, pour moi, c'est important parce que ça fait le lien et le liant par rapport à tout ce dont on parle ici sur le partage.
Oui, on manque de relais politiques, mais effectivement, au niveau local, on a le sentiment que les choses se passent mieux. Il y a des villes, il y a des régions, de grandes régions, aux États-Unis notamment, pour quitter le monde en développement, de New York déjà, Chicago, en Californie.
La Californie.
Bénédicte Magnier, il se passe des choses quand même plus qu'intéressantes.
La Californie qui s'engage, d'ailleurs, qui s'est engagée à remplacer l'argent qui est perdu dans le désengagement des États-Unis, de l'accord de Paris. Oui, oui. C'est d'ailleurs en Californie qu'on voit émerger le plus d'achats directs à la ferme.
Et là, ce sont vraiment des initiatives soutenues par le politique.
Oui, absolument. Les modes de vie changent. On voit à New York aussi, par exemple, que la ville subventionne maintenant la Civic Tech, subventionne les coopératives de travail, c'est-à-dire d'autres modes d'organisation. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Moi, je suis comme Anne-Sophie, je ne condamnerai pas le monde politique dans son ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau local, qui sont intéressantes. Et de toute façon, les changements seront bottom-up, c'est-à-dire viendront du terrain. Parce qu'on se trouve aussi, et c'est ce à quoi le monde politique est confronté, on se trouve dans un système où les leviers d'action se sont déplacés. Ils ne sont plus forcément au niveau national non plus. Alors, au niveau national, il y a des politiques qui sont convaincus qu'il faut faire quelque chose, d'autres qui le sont moins. Mais on est dans un système économique global qui est devenu une civilisation et où les contraintes sont mondiales. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'économie est basée sur des transports internationaux, sur des accords de libre-échange, etc. Donc, il faut une volonté politique énorme si on est un homme politique seul pour essayer de changer ça. Le système est extrêmement lourd à changer. Et puis en plus, quand on est un homme politique, c'est assez compliqué de porter un discours devant les électeurs qui consiste à dire, écoutez, il va falloir tout mettre à plat et que nous changions tous nos modes de vie. Souvent, les hommes politiques se disent, je ferai jamais carrière sur un discours pareil. Donc ça n'entre pas dans les codes du monde politique et c'est un des problèmes.
On prend quelques exemples, je reviens vers l'économie du partage, mais on va prendre aussi avec Bénédicte Magnier, on verra comment ça se passe dans d'autres pays. Les habitats, je trouve que la question de l'habitat qui est extrêmement centrale, hein. Habitat coopératif, il y a plusieurs formes, écologique, solidaire, mais ça peut être aussi bien l'intergénérationnel qui décide de s'installer de plusieurs générations ensemble, ça peut être des formes d'architecture, ça peut être les produits, enfin vous citez beaucoup d'exemples, Anne-Sophie Novelle, mais qui pourrait réellement modifier en profondeur la vie de bien des gens.
L'habitat est un des secteurs sur lesquels on doit le plus agir aujourd'hui, mais c'est un chantier énorme. Déjà, si on arrivait à rénover tous les bâtiments existants pour qu'ils soient un peu plus, que ça soit moins des passoires énergétiques, ça serait important. Et le mouvement des Gilets jaunes est aussi là pour nous le rappeler, parce qu'il y a plein de gens qui se sont plaints de ça aussi dans leurs témoignages. Mais c'est une solution, l'habitat participatif. C'est des projets au long cours. Je crois qu'il faut au moins 5 ans pour se mettre d'accord, essayer de trouver les bonnes personnes avec qui partager. C'est aussi un partage de valeurs. Donc c'est un apprentissage, en fait, de mise en commun et de partage de vie quotidienne. Donc oui, il y a plein d'initiatives. Après, je ne sais pas si ça connaît un essor exponentiel non plus. Voilà, ça fait partie des belles choses. Là, en ce moment, il y a plein de gens qui rêvent de retourner à la campagne, acheter des hameaux, s'installer en mode l'effondrement va arriver et on doit s'auto-organiser. Oui, sans doute, mais j'allais dire, c'est des petites solutions qui doivent surtout être inspirationnelles, dans le sens où l'intergénérationnel doit nous pousser à réfléchir aussi plus globalement à l'échelle de la société. Pour moi, c'est la force de ces exemples-là. Donc, qu'ils se développent, c'est une bonne chose, mais la loi et le cadre qu'on a aujourd'hui ne permet pas non plus de le faire à grande échelle. Ce temps-là, le temps politique, le temps juridique, parfois peut mettre à mal des volontés d'aller dans des nouvelles directions. Alors, c'est bien pour certains aspects. Quand je parlais des dérives du capitalisme qui vient à travers ces plateformes dénaturer le partage comme on pourrait l'avoir de manière naturelle et spontanée. Mais sur l'habitat, là où on pourrait aller plus loin, parfois ça a été un peu freiné par un cadre qui ne permettait pas de monter facilement une société de coopérative adaptée à l'habitat partagé.
Mais on peut dire la même chose du travail aussi. On a quand même pas mal accusé
dans le gros sujet.
Le partage, quand vous proposez un service, par exemple, un service rendu de bricolage, voire beaucoup plus en échange d'une autre prestation, on peut accuser les gens qui ont cette initiative de prendre le travail des artisans, par exemple.
Exactement.
Des obstacles juridiques, quand même.
Des mises en concurrence déloyales, ou des systèmes qui doivent trouver leur marque, ou des personnes qui sont obligées de déclarer un statut d'auto-entrepreneur, du coup sans protection sociale, sans garantie après pour avoir des vacances, qui prennent toutes les charges à leur compte. Ça, c'est pas forcément souhaitable. Je pense qu'en France, on a la chance d'avoir un cadre qui est intéressant et assez développé pour les travailleurs. Donc oui, on doit être vigilant sur tout ça. Donc le fait que le temps économique permette ce type d'innovation, c'est fantastique. Mais à un moment, il ne faut pas être dupe non plus. Et en effet, le régulateur doit avoir son rôle. Donc c'est aussi, dans notre forme démocratique, à nous de faire remonter ces informations.
Oui. Bénédicte Magnier, dans d'autres pays, l'Amérique latine, tenez, on ne l'a pas cité, si vous avez parlé du Brésil, confronté aux forêts menacées par la politique de M. Bolsonaro.
Oui,
plus largement, en Amérique latine, il y a quand même une culture déjà très ancienne, non, de l'action coopérative.
Il y a une culture de l'entraide qui a beaucoup joué sur certaines mobilisations locales, notamment les mobilisations contre les multinationales de l'eau. Il y a eu plusieurs villes dont les habitants ont repris en main leur système de distribution d'eau. On l'a vu aussi aux États-Unis d'ailleurs. Parce que l'idée aussi, il y a une culture de proximité avec la terre-mère, avec la Pachamama, et l'idée qu'on pouvait privatiser un bien commun et faire payer des taxes sur ce qui est fourni naturellement par le milieu naturel, ça ne passait pas. Donc il y a eu beaucoup d'actions comme ça de résistance, je dirais, en Amérique latine plutôt. Mais pour revenir à l'habitat, il y a une chose, moi, qui me paraît intéressante, c'est qu'en corollaire de l'habitat, parce qu'on ne peut pas toujours changer une maison qui est construite pour durer un siècle ou deux, mais en corollaire de l'habitat, les gens ont plutôt envie de changer leur mode énergétique. Alors, c'est une chose qu'on ne voit pas beaucoup en France, parce que d'un point de vue réglementaire, c'est compliqué. Mais ailleurs, en Europe, on voit énormément de coopératives d'énergie renouvelable qui sont créées par des habitants. On voit beaucoup en Scandinavie, en Norvège, au Danemark. Au Danemark, 80% des parcs éoliens du pays ont été installés par les habitants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se sont groupés.
Donc ils sont privés, ils n'appartiennent pas, ne sont pas des installations publiques.
C'est géré comme une coopérative commune, mais on peut entrer, c'est-à-dire que quand on arrive dans un quartier, on peut tout à fait collaborer. Le parc éolien de Middelgrunden, qui est ces grandes éoliennes qu'on voit au large du Danemark, des côtes du Danemark, sont partagées 50% public, c'est la ville qui les détient, et 50% par les habitants. Et il y a une loi qui oblige toute nouvelle construction d'un parc éolien ou d'un équipement solaire, qui oblige à ce que 20% de cet équipement appartienne aux habitants locaux. ça, c'est une manière d'inciter aussi.
Ces initiatives n'émanent pas, en fait, comme on pourrait le penser, de groupes marginaux, même si certainement ça doit exister, qui ont des rêves un peu comme ça de vie collective ou qui reviendraient à des formes déjà connues, hein, du post-68 ou autres. Mais en fait, ce sont plutôt les classes moyennes, hein, bien intégrées, et cela dans tous les pays du monde, je crois que vous l'avez observé, l'une et l'autre, qui aspirent tout simplement à un monde plus solidaire, plus juste, plus vivable.
Oui, c'est ce qui me fait penser d'ailleurs que ces tendances au changement sont des tendances profondes qui sont appelées à durer. En sociologie, on voit bien qu'au fil de l'histoire, ce sont toujours les classes moyennes qui ont imprimé les tendances de long terme, les changements de long terme. Il y a surtout une forte implication dans ces classes moyennes de la génération des millennials, hein, c'est-à-dire les jeunes qui sont devenus adultes avec le changement de siècle. C'est une génération qui est très impliquée dans l'économie sociale, qui a envie de changer le mode de fonctionnement du capitalisme. Ça se voit aux États-Unis, ça se dit beaucoup aux États-Unis, qui est très engagée pour le climat aussi. Et ce qui me fait penser aussi que ces changements de mode de vie, de consommation sont appelés à durer, c'est que les crises locales liées au dérèglement climatique vont se multiplier. C'est-à-dire qu'on voit des catastrophes naturelles se multiplier, des vagues de chaleur, etc. Et ça va inciter d'autant plus les populations locales à se mobiliser pour changer localement le système.
Ouais. Les jeunes dont vous parlez sont très souvent des créateurs d'entreprises. Je reviens vers Anne-Sophie Novel. Il n'y a pas que des jeunes, mais il y a quand même énormément de jeunes qui montent des start-up ou qui trouvent des initiatives de partage sous toutes les formes, hein, de voitures, d'habitat, de travail et d'autres.
Oui, après, je pense qu'on est dans une génération aujourd'hui qui est agissante. En tout cas, les jeunes grandissent aujourd'hui avec cette idée que tout va pas rester identique à ce que leurs parents et grands-parents ont vécu, surtout. Et donc, ils ont pas envie de rester les bras croisés. Après, c'est une lourde charge qu'on met sur leurs épaules. Donc, on doit aussi prendre notre responsabilité, tout ce sens que nous sommes, mais sans attendre que les jeunes soient les seuls qui agissent. Il y a quelques années, il y a des sociologues qui parlaient de créatifs culturels pour qualifier ces personnes agissantes dans la société. Alors, il y avait différents profils de personnes qui se mettaient à changer leurs habitudes et à agir différemment avec justement une recherche d'alternatives. Aujourd'hui, au-delà du partage, je trouve qu'il y a plein d'ingénieurs qui ont la chance de faire de longues études et de se dire finalement je veux quelque chose qui fait sens et donc je vais retourner cultiver la terre. Ou on a parlé de job out pendant un moment où on sortait du système en se disant mais c'est pas comme ça qu'on va devoir... Donc le système éducatif derrière ça pose cette question-là, doit aussi changer pour mieux prendre en compte ces questions. Mais jeune ou moins jeune, moi j'observe dans mon entourage, proche ou moins proche, des personnes qui au bout de milieu de carrière se disent « mais en fait c'est pas durable ce que je fais, il faut que je change la donne ». Donc c'est pas forcément en changeant du tout au tout qu'on va arriver à s'en sortir, mais c'est partir de ses compétences et voir comment chaque métier peut se réinventer, chaque entreprise peut évoluer, et là aussi le chantier est énorme.
Et on parle d'une réflexion individuelle et puis qui aboutit sur une envie de collectif. On revient sur l'antériorité, on a dit dans les années 70 déjà, tout était présent. Moi, je voulais vous parler à Anne-Sophie Novel, je crois que vous le mentionnez aussi, d'Ivan Illich. Ça remonte encore avant. Mmh. Et là, il y a une forte antériorité sur cette idée de ralentir, qui est reprise ces temps-ci par Régis Debray, par exemple, le philosophe Régis Debray. Et il avait fait une analyse très amusante de ce que pouvait coûter une voiture si on ne la partageait pas. Il avait déjà imaginé, au fond, cette économie du partage. C'est-à-dire qu'en gros, enfin, vous allez peut-être le dire mieux que moi, entre le temps d'utilisation de la voiture, qui est très faible, elle passe beaucoup de temps.
Je crois qu'elle reste 92% du temps immobile, la voiture.
Oui, c'est une moyenne, bien entendu.
Bien entendu.
Et plus son entretien, ce qu'elle nous coûte à l'achat... On arrive quoi à 6 km par heure, non?
Oui, c'est complètement stupide, en fait.
Il avait fait un calcul extraordinaire.
Bien sûr, mais c'était déjà... le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a bâti nos sociétés sur le développement de l'automobile. Du coup, nos villes ont été conçues de cette manière-là. L'étalement urbain en a découlé, les centres commerciaux également. Pour faire la marche inverse, là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein de modes de transport en commun, de transport doux qui se développent. Mais il va falloir aussi que l'agencement des villes et tout ce qu'on a bâti, par exemple, les grands hypermarchés, c'est en train de reculer. Aux États-Unis, on a énormément de friches de centres commerciaux abandonnés. Je crois qu'il y a tout un travail qui a été fait de documentaire là-dessus. C'est impressionnant. C'est tout ça qu'il faut repenser de manière globale. Et donc, en effet, le rapport à la voiture doit évoluer. Et c'est pour ça qu'on ne peut qu'encourager l'autopartage, le covoiturage ou les alternatives quand c'est possible. Mais avec la hausse du prix du carburant, de toute façon, on va être obligé de le faire. Donc là, au pouvoir public aussi, de faciliter la vie de ceux qui habitent loin des centres urbains, de voir comment au niveau du travail on peut adapter tout ça. C'est pour ça que c'est une pensée complète. complexe qui nous est nécessaire aujourd'hui. Oui. Donc, Ivan Illich, j'étais un des pères de cette pensée-là. Mais il faut
c'est très frappant de relire aujourd'hui ce qu'il disait à ce moment-là. On est au fond avec, en présence des pionniers quand même de la transition, parce qu'en dépit de tout ce que vous nous dites qui paraît encourageant, on est une très très faible partie de la population mondiale qui agit, comme vous venez de le démontrer l'une et l'autre. Mais est-ce que vous pensez quand même qu'on est arrivé dans une période post-mondialisation, comme beaucoup le pensent, qu'on va arriver à renverser le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit.
Ça va être très compliqué.
Ou en tout cas, l'infléchir durablement.
Changer le modèle. Mais par exemple, je vois on parlait d'Ivan Illich, mais les théories de la décroissance, qui étaient très, très marginales il y a quelques années, se répandent aujourd'hui. J'étais frappée de voir les jeunes lycéens qui manifestent. Une de leurs porte-paroles disait « Mais on met dans nos manuels d'économie que tout repose sur la croissance, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. » Cette pensée critique est aujourd'hui très répandue. Et puis, il y a quand même l'idée de l'urgence qui tenaille cette jeune génération aussi, qui sera certainement vitale dans l'idée d'agir. L'espèce humaine est quand même la seule espèce vivante qui est capable de penser son avenir. Elle a aujourd'hui conscience qu'il est nécessaire d'aller très très vite. Donc il faut peut-être maintenant de nouveaux mots d'ordre, de nouveaux messages mobilisateurs peut-être. Se dire qu'une autre empreinte de l'homme sur Terre est possible.
Anne-Sophie Novel.
En tant qu'économiste, je crois que j'ai été comme ces jeunes frappée de voir qu'on nous enseignait des modèles qui ne prenaient pas en compte ces enjeux. Donc aujourd'hui, la science économique évolue, change. Mais en effet, il faut arriver à réfléchir à la notion de prospérité en la décorrélant de la notion de croissance. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui. On a placé la croissance au cœur de nos préoccupations. C'est-à-dire qu'on est heureux quand on gagne 0,5% de croissance ou je ne sais quoi, et que c'est annoncé aux médias en une. Ça, il faut abandonner. Il faut juste plutôt se dire qu'est-ce que c'est qu'une société prospère, comment est-ce qu'elle prospère, comment est-ce que les gens sont heureux dans ce système, et comment est-ce qu'on fait pour survivre. Et en fait, c'est pas sauver la planète, c'est sauver la civilisation et l'humanité qui l'habite et le vivant qui l'entoure. Et ça, c'est je pense que les jeunes l'ont intégré. Ils l'ont compris, ils sont très lucides, en tout cas ceux qui vont marcher. Et on ne peut qu'en fait en faire une réflexion très globale pour essayer de la pousser le maximum possible.
Allez, encore un dernier exemple, mais on conclut là-dessus, l'agriculture urbaine qui a été pris un petit peu en dérision presque. Enfin, c'est sympathique, voilà. En réalité, c'est un vrai enjeu. Et on le voit dans beaucoup de pays, hein. Bénédicte Magnier, vous le démontrez, hein. Vietnam, Afrique, dans les pays africains, bien sûr.
Et les pays industrialisés, ça.
Et nos pays industrialisés.
Ça a gagné beaucoup les pays industrialisés, oui.
Le meilleur exemple d'économie du partage, d'un mot?
Il faut que je sais pas. Ça serait très difficile d'en choisir un, en fait. Dans la vie chère, je trouvais que c'était cette diversité qui était importante. Pour moi, les plus belles initiatives sont celles qui restent sur une base de, peut-être gratuite, j'ai envie de dire, de solidarité et de vrai partage. Pas forcément celles qui passent par un échange économique.
On n'a pas parlé de l'échange des savoirs, c'est encore un sacré sujet.
C'est ce que j'allais dire, les échanges de savoirs qui sont totalement gratuits, apprendre les uns des autres, et faire essaimer les connaissances autour de soi, ça c'est un beau projet.
Mais là encore avec prudence, hein, vous le pointez d'ailleurs Anne-Sophie Novel.
Oui, non, c'est surtout préserver la diversité et la biodiversité. Et on peut avoir une réflexion sur les semences anciennes, comme on peut avoir cette réflexion au niveau du numérique et de l'accès aux données et aux savoirs, avec la notion de brevet partagé. Donc ça, on ouvre encore une autre fenêtre là.
Encore un sacré sujet. Merci à toutes les deux. On se reportera à vos travaux respectifs. 1 million de révolutions tranquilles. On n'a pas donné le sous-titre « Comment les citoyens changent le monde ». C'était paru au Lien qui libère. Et on l'a dit, c'est aujourd'hui en poche de Bénédicte Magnier. Et puis Anne-Sophie Novel, donc nous avons parlé de la vie chère. Chère comme le verbe partagé en anglais. La vie chère, mode d'emploi, consommation, partage, mode de vie collaboratif. Et ce film, Les médias, le monde et moi, qui va bientôt sortir en France et qui a déjà été vu à la télévision de Belgique, je crois. Merci encore à toutes les deux.
Merci.
Et à notre équipe, Anne-Laure Chanel, qui réalise l'émission comme chaque soir, avec Cédric Chatelus aujourd'hui, et bien sûr pour la préparation, la documentation. Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, n'hésitez pas à aller voir sur notre site tous les ouvrages et lectures que nous vous conseillons sur ces thèmes-là. Et gardons l'espoir, le pire n'est jamais sûr. Bonsoir à tous.